Comme nous l'avons annoncé, nous voulons aborder la question des anciens, les anciens dans l'Église. Et nous aurons ce matin une première réflexion sur ce sujet. Et nous aurons une autre occasion pour développer les autres éléments qui sont rattachés à ce thème. Les anciens. La phrase qui décrit l'ensemble de notre réflexion, c'est la suivante. Dans les églises fondées par les apôtres, des anciens étaient chargés de diriger la communauté. Ils portaient différents noms, plus ou moins équivalents. La première partie de mon propos, c'est justement de voir ces différents noms qui sont utilisés, sachant que le nom ou le terme des anciens est le plus utilisé, le plus commun, le plus répandu, et aussi celui qui a le sens le plus général. Et après, nous allons trouver d'autres termes qui ont des sens plus spécifiques. On commence par l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons des termes qui, après, ont des résonances dans le Nouveau. Je vais d'abord évoquer un texte qu'on trouve dans ce qu'on appelle la Septante. Qu'est-ce que c'est que la Septante ? La Septante, c'est une traduction ancienne de l'Ancien Testament hébreu en grec. Et c'est une traduction qui a été faite dans les derniers siècles de l'ère d'avant et que Jésus et ceux de son temps connaissaient. Certaines des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau sont faites d'après cette traduction des Septante. Alors je lis un texte dans lequel on trouve un des termes qui viennent s'ajouter au terme d'ancien. Dans la Septante, donc, on trouve le mot grec « épiscopos », un mot francisé en « évêque ». Dieu est l'évêque suprême. Le mot s'applique aussi à un magistrat, un gouverneur de province, nous avons plusieurs textes qui l'évoquent, ou aux hommes chargés de surveiller les travaux du temple et de veiller à son approvisionnement en huile et en parfum. Et je lis juste quelques phrases que nous trouvons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34. Il s'agit des travaux de restauration du temple de l'Éternel. Les hommes qui travaillaient à la réparation du temple étaient placés sous la direction de Yahath et d'Abdias, des Lévites de la lignée de Merari, et de Zacharie et Meshulam, de la lignée des Kéatites, chargés de la supervision des travaux. Les Lévites surveillaient les porteurs et dirigeaient tous les ouvriers des différents corps de métier dans chaque sorte de travail. Voilà une première référence. Les anciens des églises, autre référence dans l'Ancien Testament, étaient aussi appelés, alors des termes que nous connaissons beaucoup mieux, bergers ou pasteurs. Et nous revenons à l'Ancien Testament parce que ce sont des mots de cette famille, de ceux qui s'approchent. Alors je vais voir, parce qu'aujourd'hui c'est une grande première pour moi. Ça y est, c'est parti. Donc, si c'est là, c'est là-bas, donc c'est bon. Bon, après on verra si je ne me mélange pas trop les pinceaux, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, les textes qui sont affichés, je les lis avec vous. « Revenez donc, enfants rebelles, l'Éternel le demande, car c'est moi votre maître, et je vous prends un d'une ville et deux d'une famille pour vous amener à Sion. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance, ils vous dirigeront avec du savoir-faire et du discernement. » Et toujours dans le livre du prophète Jérémie, « Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, je les ramènerai dans leur propre prairie, où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront. » Nous trouvons donc ici le mot « berger » ou « pasteur ». Il est utilisé de nombreuses fois dans l'Ancien et après, bien sûr, dans le Nouveau. Ce qui frappe dans le texte que je vous ai lu et dans bien d'autres que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est que lorsqu'il est question des bergers, des pasteurs, des dirigeants du peuple sous cette appellation, ces bergers, malheureusement, sont souvent des bergers qui ont un mauvais comportement et qui sont repris, comme dans le texte que nous venons de lire, des bergers qui se paissaient eux-mêmes. Il y a même tout un chapitre dans la prophétie d'Ézéchiel, tout un chapitre entier consacré à ces mauvais bergers qui ont mal dirigé le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Dieu, en reprenant les choses et en agissant pour le bien de son peuple, leur déclare qu'il va leur donner des bergers selon son cœur, selon son choix, qui seront de bons bergers. Et nous voyons apparaître la notion de bon berger qui, évidemment, sera par essence celle incarnée par Jésus-Christ. C'est justement là que nous rejoignons maintenant les textes du Nouveau Testament. Jésus s'est donné comme modèle du bon berger. Bon. Ah, voilà. Jésus s'est donné comme le modèle du bon berger. Nous l'avons évidemment dans le texte de Jean 10, nous le reprendrons à la fin du culte pour la Sainte Cène. Et puis nous avons aussi ce texte dans la lettre aux Éphésiens. Christ a donné certains, et ici nous avons ce texte qui décrit différents dons que le Seigneur a fait à l'Église et différentes fonctions, différentes actions dont ses responsables sont chargés. Christ a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs. Alors dans la traduction ancienne, c'était pasteur et docteur. En fait, c'est pasteur et enseignant, pasteur et chargé de l'enseignement, afin de mettre les saints en état d'accomplir leur ministère pour bâtir le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble parvenus à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. Tout le chemin de l'édification de l'Église et dans l'Église de chaque chrétien, de la construction de la personnalité chrétienne, du caractère chrétien, de la pensée et des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous avez remarqué que dans ce texte sont associées intimement deux réalités ou deux notions, celle de pasteur, c'est-à-dire de berger, et celle de chargé de l'enseignement. Ces deux activités qui sont condensées, si vous voulez, dans la même personne. Autrement dit, c'est une qui est un peu la définition de l'autre, c'est-à-dire que pour être un bon berger et pour bien nourrir le troupeau, eh bien, il faut lui donner cette nourriture par l'enseignement. C'est ainsi que se conjuguent ces deux mots dans cette réalité. Nous avons d'autres textes. Et dans celui qui vient, nous avons l'apôtre Pierre qui nous parle de l'ancien. Et voici ce qu'il écrit. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié ou qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. Nous avons vu l'enseignement de l'apôtre Paul, nous voyons l'enseignement de l'apôtre Pierre, et nous voyons qu'ils convergent évidemment. L'image du berger est là aussi développée, et Pierre se déclare lui-même ancien, ancien comme eux. Nous avons déjà ici, et nous voyons ainsi petit à petit se construire l'édifice autour de l'ancien, c'est-à-dire les éléments qui convergent pour enrichir cette notion, ancien et pasteur, ancien et berger. Ici, les choses sont affirmées de façon extrêmement claire. Le berger est appelé à paître le troupeau. Et même dans la définition de Pierre, la manière de faire pour bien conduire, pour bien nourrir, pour bien s'occuper du troupeau qui est confié à la garde des anciens. Un pas de plus, et nous allons dans la lettre aux Hébreux. Et la lettre aux Hébreux apporte une notion complémentaire. C'est un autre terme qui est employé ici. Nous lisons dans Hébreux 13, dans les versets qui s'affichent, souvenez-vous de vos conducteurs. Petite parenthèse, c'était un mot très employé lorsque je suis arrivé dans l'église il y a longtemps. On appelait le plus souvent nos conducteurs, les pasteurs, on les appelait les conducteurs. Nous avons ce terme donc dans la lettre aux Hébreux. Souvenez-vous de vos conducteurs ou de vos dirigeants ou de vos guides qui vous ont annoncé la parole. Et nous retrouvons cette notion que nous avons vue dans les autres textes. Considérez comment leur vie s'est terminée et imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes, puisqu'ils en rendront compte. Saluez vos conducteurs et tous les saints. L'auteur de cette lettre a choisi un autre terme, celui de conducteur, c'est-à-dire, en fait, littéralement, ceux qui marchent devant. Voilà une notion qui vient s'ajouter. En général, on retient donc les termes que nous venons d'évoquer en premier, à savoir ancien, berger, pasteur ou épiscope, évêque. Nous reviendrons sur cette notion. Mais il y a aussi celui de conducteur, celui qui marche devant, celui qui montre la route. Et on ajoute une dernière notion dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Ça, c'est donc encore l'apôtre Paul qui parle. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui, parmi vous, se donnent de la peine pour vous diriger dans le Seigneur et pour vous exhorter. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, en raison de leur travail. C'est très voisin de ce que nous venons de voir dans le texte précédent, la notion de direction, de présidence. Voilà à peu près l'inventaire des termes employés pour parler des anciens. On peut conclure provisoirement de l'usage de ces termes qu'il n'existait pas un seul et unique modèle de conducteur ou de pasteur ou de dirigeant dans les églises, mais qu'il y avait plusieurs mots qui décrivaient la même réalité. Il y a une fonction de direction reconnue par tous, mais qui prend, selon les endroits, selon les besoins, mais selon les dons aussi de chacun, des formes différentes et des noms différents. Et cette observation me paraît extrêmement importante. Il y a une fonction reconnue partout, qui est une fonction de direction, mais la manière dont elle s'exprime et dont elle s'exerce prend des nuances différentes selon les lieux, les circonstances et les dons ou les qualifications de chacun. Nous allons maintenant nous tourner vers un texte important qui se lit dans le livre des Actes au chapitre 20. Je situe rapidement le contexte de ce discours, qui est un discours de l'apôtre Paul. À la fin de son parcours, il sait qu'il va vers Jérusalem et qu'il aura des épreuves et qu'il va être mis en prison et finalement mis à mort. Et avant de quitter la région d'Éphèse, il convoque les anciens de l'église d'Éphèse et il leur adresse la parole pour leur faire ses recommandations. Et dans ce discours important, nous trouvons à la fois les mots, les termes, les définitions et les actions de ceux qui dirigent l'église. De Milet, Paul fit convoquer les anciens de l'église d'Éphèse. Quand ils l'eurent rejoint, il leur déclara : Vous savez quelle a toujours été ma conduite à votre égard depuis le jour de mon arrivée en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Désormais, je saute un paragraphe où Paul parle plus personnellement de ses problèmes avec les Juifs et de ce qu'il a eu à affronter. Et un peu plus loin. Désormais, je le sais, voici que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous, parmi lesquels j'ai passé en proclamant le règne. Je peux donc l'attester aujourd'hui devant vous. Je suis pur du sang de vous tous. Je n'ai vraiment rien négligé. Au contraire, c'est le plan de Dieu tout entier que je vous ai annoncé. Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établi les gardiens. Soyez les bergers de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, vous rappelant que nuit et jour, pendant 3 ans, je n'ai pas cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce, qui a la puissance de bâtir l'édifice et d'assurer l'héritage à tous les sanctifiés. Nous avons dans ce beau texte, qui a une force extraordinaire, l'ensemble des éléments qui constituent les termes et la définition, le profil et l'activité de l'ancien et des anciens dans l'Église. Oui, nous avons le terme d'ancien, puisque c'est eux qui sont convoqués. Nous avons le terme de berger, puisqu'ils sont invités à paître le troupeau. Nous avons le terme d'évêque, puisqu'ils sont chargés de veiller sur le troupeau. Et chacun de ces termes a des déclinaisons multiples aussi dans l'application. Et l'apôtre Paul, dans le désir de boucler la boucle de son enseignement auprès de cette église d'Éphèse, qui lui tient beaucoup à cœur, comme les autres, il leur annonce qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des loups cruels qui s'introduiront dans le troupeau pour s'emparer des brebis. Et il précise même que certains surgiront du sein même de la communauté. D'où cette grande nécessité de la vigilance. Alors la vigilance, c'est bien sûr d'abord la responsabilité des anciens, des évêques, mais c'est aussi la responsabilité de chacun. Veiller sur soi-même, veiller sur l'enseignement. Faire comme les chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et pour finir, l'apôtre les recommande à la grâce du Seigneur et à sa parole forte et puissante qui peut les garder, qui peut les garder dans la foi, qui peut les garder au sein de la tentation et au sein de l'adversité. Très beau texte qui résume l'essentiel de ce que nous venons de dire. Je voudrais juste encore appuyer sur deux ou trois réalités pour achever de boucler, nous aussi, la boucle de cette définition. D'abord, l'équivalence des termes que nous avons rencontrés. Cette équivalence saute aux yeux dans le texte que nous venons de lire. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent indifféremment les termes d'anciens, d'évêques, et nous venons de voir que Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse en les appelant évêques. Et il demande, par exemple, dans un autre texte, à son serviteur et collaborateur Tite d'établir des anciens dans chacune des églises qu'il a fondées, avec Barnabas d'abord, avec Silas après, et il leur dit d'établir des anciens dans chaque église. Et cependant, au moment où il décrit la fonction, il dit « il faut que l'évêque soit ceci et cela ». Donc, il y a vraiment équivalence des termes entre pasteur et évêque. Les termes d'ancien et de pasteur aussi sont équivalents, puisqu'il demande aux anciens de conduire le troupeau et de lui donner la nourriture, de paître le troupeau de Dieu, de paître l'église du Seigneur. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde », ajoute l'apôtre Pierre. Donc les trois termes d'ancien, d'évêque et de pasteur désignent tous trois une seule et même charge de responsabilité au sein de l'Église. Les accents donnés sur chacun de ces termes. Le terme d'ancien souligne la dignité de l'office et de la charge. Il parle de lui-même. Il désigne plutôt un type de personnes, ceux qui ont déjà un certain âge et dont l'âge normalement a été utilisé pour acquérir de la sagesse. C'est le chemin logique et normal de toute évolution. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas toujours le cas, et on ne peut pas oublier sur ce terrain, mais ce n'est pas mon sujet, j'en fais juste une petite parenthèse, que dans le débat entre Job et ses amis qui sont venus le visiter, il y a le dernier qui était plus jeune et qui a commencé son discours en disant « Je suis jeune et vous êtes âgé, j'ai donc attendu que vous parliez en pensant que la sagesse parlerait et dirait exactement ce qu'il faut dire. » Et ce jeune a trouvé que ses amis de Job anciens n'étaient pas si sages que ce qu'il pensait et ce qu'il espérait. Alors il a fini par oser parler. Et il a dit quelque chose d'important. Il a dit, en fait, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas uniquement le fait que les années se déroulent pour que la sagesse vienne dans le cœur de celui qui est âgé. C'est l'Esprit du Seigneur qui donne la vraie sagesse. Et nous voulons juste retenir cette ligne qui est extrêmement importante. Mais pour revenir à la note particulière, c'est vrai que le terme d'ancien désigne ceux qui, par les années qui se sont écoulées, ont manifesté qu'ils étaient capables d'avoir intégré un certain nombre de réalités de la vie, de donner des bons conseils, d'éduquer les jeunes générations, et de ce fait, ils peuvent assumer la charge de conducteur, de dirigeant. C'est la note de la dignité de l'office d'ancien. Évêque souligne la responsabilité de vigilance ou de surveillance, veiller sur. Surveiller ou veiller sur. Je corrige toujours, lorsque ce mot vient, la notion de surveillant pour la notion de veiller sur. Surveillant, c'est le sur qui est d'abord, et veiller sur, c'est veiller, et comme chacun est appelé à veiller, veiller et prier. C'est veiller. Veiller sur la marche de l'Église. Veiller sur le troupeau du Seigneur. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreurs, d'hérésie, de conflits, de choses qui viennent perturber l'édification de l'Église. C'est la note particulière sur le mot évêque. Nous avons lu dans l'Ancien Testament les responsabilités de ces hommes qui étaient chargés de veiller à la réalisation des travaux du temple. Berger, nous l'avons déjà dit, décrit le travail accompli à l'égard des brebis, c'est-à-dire les prendre dans l'enclos, les amener au pâturage et les nourrir. Psaume 23 et beaucoup d'autres textes qui parlent de cette belle fonction qui consiste à conduire le troupeau vers des verts pâturages et vers des eaux paisibles et de le nourrir, de le restaurer et de le fortifier. Nourrir, enseigner l'Église de Dieu. Et puis nous avons vu la notion de conducteur qui décrit le guide, celui qui marche devant, qui indique la direction par son exemple, son influence et son conseil. C'est ce que nous avons trouvé dans les textes que nous avons lus. Être les modèles du troupeau et pas exercer sur le troupeau une autorité tyrannique. Je termine ce que j'avais pensé partager avec vous ce matin par cette notion importante du gouvernement collégial de l'Église. Les synagogues étaient dirigées par un conseil de 7 ou 9 anciens. La responsabilité collégiale est aussi le modèle dominant dans l'Église primitive. Et si nous avions lu tous les textes, nous en avons lu déjà un bon nombre, tous les textes sont au pluriel. Les anciens sont au pluriel. C'est un conseil d'anciens, c'est un groupe d'anciens. C'est ainsi que sont dirigées les églises des apôtres, les églises primitives. Les termes d'anciens et d'évêques apparaissent toujours au pluriel, sauf quand l'apôtre veut énumérer les qualifications, mais ça sera l'objet d'une étude à venir, les qualifications et les fonctions des différents responsables. Paul et Barnabas, par exemple, sont des responsables qui dirigent les églises ou qui les ont fondées. Que voyons-nous à ce propos? Nous avons un texte intéressant, nous n'avons pas le temps de le lire maintenant, mais je vais simplement l'évoquer rapidement. Dans le chapitre 15 du livre des Actes, nous avons ce qu'on a appelé la conférence de Jérusalem. En deux mots, de quoi s'agit-il? Vous savez que l'église mère de toutes celles qui vont se développer après par l'œuvre de Paul et par le témoignage des apôtres, c'est cette église mère, c'est l'église de Jérusalem. Et dans cette église de Jérusalem, il y a des apôtres qui sont les fondateurs des églises et des anciens. Et parmi les autres villes dans lesquelles ont été fondées des églises, il y a l'église, la ville d'Antioche. Et il se trouve que dans l'église d'Antioche, il y a eu des gens qui sont venus de la Judée et de Jérusalem et qui ont dit à l'église d'Antioche, si vous ne vous faites pas circoncire selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors ça a profondément troublé l'église et ils ont envoyé Paul et Barnabas à Jérusalem pour consulter cette église et les responsables de cette église et voir comment éclaircir ce problème. Eh bien, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est ainsi que ça s'est produit. Et Paul et Barnabas sont venus vers l'église de Jérusalem et ils ont rencontré qui ? Les apôtres, les anciens et l'église. Et chaque fois, c'est mentionné ainsi, dans cet ordre. Les apôtres, qui sont les fondateurs, les anciens, qui sont ceux qui ont été nommés pour conduire l'église, et tous ceux qui se rassemblent après dans l'église. Les apôtres, les anciens et l'église. Et dans le débat, plusieurs ont pris la parole parmi les grands apôtres, Pierre, Paul et Jacques. Et il y a eu aussi la décision de l'église qui a dit non, on ne peut pas laisser croire qu'il faut la circoncision pour être sauvé. Donc on va écrire une lettre à l'église d'Antioche. Et cette église, elle est confiée à Paul et Barnabas et elle est confiée aussi à Silas, il faut que je retrouve le nom, deux autres, je ne les retrouve pas dans mes notes, qui eux aussi sont nommés dirigeants, sont nommés capables d'assumer avec les anciens la conduite de l'Église. Donc, pour terminer, nous sommes assurés que le modèle du Nouveau Testament dans la direction de l'Église, c'est une direction collégiale. Nulle part dans le Nouveau Testament, on ne trouve une direction monarchique de l'Église. Voilà pour cette première partie. Quelques éléments de réflexion que nous pourrons mûrir, sur lesquels nous pourrons d'ailleurs discuter. Et nous aurons une deuxième étude sur les qualifications et les fonctions des anciens. Nous allons maintenant nous tourner vers celui qui est le berger pour communier à la Sainte Cène. Et pour nous préparer à prendre la Sainte Cène, nous allons chanter le grand et le bon berger. Je vous invite à vous lever pour chanter dans ton amour, divin sauveur, toi les délices de ton Père, quittant ta splendeur, tu viens t'unir à notre misère. Levons-nous pour chanter au partage du pain et du vin. Voici ce que Jésus déclare dans l'Évangile selon Jean.